Amen. On s'en va dans Luc au chapitre 23. Et on a lu le chapitre au complet avant le temps de prière. Et en ce moment, pour se concentrer sur ce que je crois que le Seigneur m'a dirigé pour aujourd'hui, notre texte, ça va être les versets 13 à 25. Donc, dans Luc 23, 13 à 25. Dieu révèle la profondeur de sa rédemption. C'est un thème un peu inhabituel. La semaine passée, on a vu dans 1 Corinthiens au chapitre 2, hein, que Dieu révèle sa profondeur. Et on continue avec un passage où est-ce que j'aimerais faire ressortir un point. Après l'avoir lu, je vais vous expliquer. Donc, on lit au verset 13, donc dans Luc 23, 13. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? » « Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait. Il leur livra Jésus à leur volonté. Oh Seigneur, quel texte on a! On te prie, toi, Dieu, le Saint-Esprit, que tu nous enseignes, que tu discernes, toi, avec ta parole vivante, que tu discernes les intentions et les pensées de nos cœurs, que tu révèles les dispositions de nos cœurs, Seigneur. Quel esprit nous anime! Seigneur, on voit des gens qui étaient animé d'esprit bien précis dans ce texte. Et Seigneur, on veut le considérer ensemble ce matin, afin que tu accomplisses ta volonté dans nos vies, afin que, Seigneur, on vive à la lumière de la rédemption merveilleuse qui est en Jésus-Christ. Alors, on s'en remet complètement, Seigneur, à ta volonté. On veut, Seigneur, être docile entre tes mains. Et on prie que s'il y a quelqu'un ici qui est encore hors de la vie qui est en Jésus-Christ, qui n'est pas encore en lui, dans sa vie, dans sa justice, qu'aujourd'hui, cette personne voit son péché, voit son besoin et voit aussi la provision parfaite qui est en Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui convainc de péché, de justice et de jugement. Seigneur, on s'en remet à ton œuvre, à ta grâce, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le passage qu'on vient de lire, on a lu le chapitre au complet, mais le passage sur lequel on se concentre contient ce que je pourrais appeler une fausse bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il donne presque l'espoir que Jésus allait être relâché. Parce qu'on voit vraiment, Pilate, il insiste à trois reprises, au verset 16, au verset 20, puis au verset 22, il voulait relâcher Jésus. Mais en fait, on voit dans ce passage-là que Dieu révèle la profondeur de sa rédemption. Et littéralement, ce passage est l'accomplissement prophétique et rédempteur de Genèse 50-20. Vous aviez médité de faire le mal. Est-ce qu'on s'entend qu'il y a pas mal de monde ici dans ce qu'on a lu qui méditait de faire le mal? Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce qui était annoncé, prophétisé de la bouche de Joseph dans la Genèse, on voit ici littéralement l'accomplissement dans le Fils. Et ici, le Fils était des propres mots que lui avait dit, livré aux mains des impies. N'oublions jamais qu'il était entre les mains du Père. Mais du point de vue humain, il était livré aux mains des impies, comme lui-même l'avait prophétisé à plusieurs reprises dans Matthieu 16, dans Luc 13, dans Marc 8. Il avait averti à plusieurs reprises des disciples. On s'en va à Jérusalem et voici ce qui va arriver. Et là, ça l'arrivait. Et donc, j'aimerais qu'on remarque en partant qu'ici, ce n'était pas l'homme qui était en charge. Oh non, Dieu était complètement en charge de tout ce qui arrivait. Et ce qu'on voit ici avec Dieu qui révèle la profondeur de sa rédemption, c'est la révélation de cette merveilleuse rédemption qui est magnifiée, qui est mise de l'avant sur la toile. La splendeur de cette lumière rédemptrice est mise de l'avant sur la toile noire et horrible de la dépravité humaine. Mes amis, il n'y a rien de flatteur pour nous ici dans le passage qu'on voit là. Notre sœur a même prié dans ce sens-là. On est de la même nature. Et avant d'avoir connu Christ, nous aussi on moquait, nous aussi on le rejetait. On avait la même attitude envers le Sauveur. Mais ce que je veux mettre de l'avant, c'est comment la grâce de Dieu s'est manifestée. Et ce que je veux qu'on remarque aussi, c'est que c'est un peu, si vous voulez, une illustration. Notre texte de ce matin est une illustration, ou si vous voulez, même un commentaire inspiré, vivant, de Romains 2 et 3. Que les religieux ou les païens, que les juifs qui avaient la loi, que les païens qui ne l'avaient pas, tous sont sous la condamnation du péché. Que comme la Bible dit, il n'y a pas personne qui est plus excellent, car nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Et vous savez, qu'est-ce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, comment ils réagissent au mal? Comment ils réagissent à ce qui arrive dans le monde? Ben, ils mettent le blâme sur quelqu'un. Ah, Jésus, il mérite bien ce qu'il y avait. Puis, c'était le roi des Juifs, délivre-nous. Puis, comme si Dieu leur devait quelque chose. Mais j'aimerais rappeler que ça dit dans Jacques, chapitre 1, au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun, quand il est tenté, est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Mes amis, quand il y a du mal, que ce soit à cette époque, que ce soit à notre époque, Dieu ne peut jamais être blâmé. C'est ce que l'homme naturel, par contre, fait. On a vu la semaine passée, dans notre texte, la semaine passée, dans 1 Corinthiens, l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est une folie pour l'homme naturel. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, cet homme naturel, face au mal et à la souffrance? Il blâme Dieu. Mais pour nous ici, qui sommes scellés par l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de vérité, nous savons et nous croyons, et je dirais même nous sommes convaincus de la vérité absolue du fait que de Dieu viennent toute grâce et tout don parfait. Et chez lui, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Il est bon, il reste bon, il sera toujours bon, il n'y a aucune malice en lui, il est bienveillant en toute chose. C'est une vérité absolue et inchangeable. C'est l'Esprit qui nous anime depuis qu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ. C'est la différence entre ceux qui ont l'Esprit et ceux qui ne l'ont pas. Ils interprètent toute la vie, tout ce qui arrive dans les circonstances à la lumière de ce Dieu qui s'est révélé à eux. Mes amis, ça change tout. Et juste sur une note personnelle, ça va me ramener là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup d'injustices en ce moment dans le monde. Il y en a toujours eu. Ce monde est entaché par le péché. Et mon esprit était irrité au-dedans de moi avec tout ça, parce que j'avais des plans, on était supposé d'aller en famille, avoir des vacances en famille, tout ça est pas mal tombé à l'eau, ça a complètement changé. Puis là, j'étais aigri dans mon cœur. Je me disais, voyons non, c'est donc bien pas correct, puis tout ça. Puis le Seigneur m'a repris là-dessus, sur l'esprit qui m'animait là-dedans. Savez-vous quoi? Le Seigneur m'a rappelé,
C'est qui permet ça? C'est qui est au contrôle de tout ça? Puis comme dirait Nebuchadnezzar, personne ne peut lui dire « Que fais-tu? » Puis comme Job s'est fait rappeler par le Seigneur lui-même, il peut faire ce qu'il veut avec qui qu'il veut. Personne ne peut lui dire « Que fais-tu? »
Et c'est salutaire d'arriver à ce point-là. Pourquoi? Parce que là, on peut se reposer dans la souveraineté de Dieu. Il est souverain et il est bon dans tout ce qu'il fait. Parce que nous, dans notre pensée humaine, on fait l'équation. Si j'aime pas ça, si ça me fait mal, c'est pas bon. Non, non, non. Dieu est bien plus grand que ça. Dieu peut prendre des choses qui sont désagréables, qui me font mal et tout ça. Puis, dans sa bonté, il fait quelque chose de rédempteur, quelque chose de beau, de glorieux pour lui à travers ça. Et c'est ce qu'on a ici qui est arrivé. Est-ce que ces gens-là étaient injustes, étaient méchants? Est-ce que Pilate était corrompu? Absolument toutes ces réponses. Mais ce que j'aimerais qu'on voit, c'est l'esprit qui animait ça, que Dieu sonde nos cœurs sur l'esprit qui peut nous animer, comme l'exemple que je viens de vous donner là, dans ma vie personnelle. Et je vais terminer avec une illustration, je pense, qui nous met tout ça ensemble. Donc, on considère simplement deux esprits qu'on a vus dans notre texte. D'abord, avec Pilate, on voit l'esprit de compromis. Notre cher Pilate, il a entendu les accusations. Au verset 2, les Juifs accusaient Christ en disant « Nous avons trouvé cet homme excitant toute notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même « Christ, roi ». Triple accusation. Révolte, ne pas payer les impôts et se proclamer roi en opposition à César. Parce qu'il demande « Est-ce que tu es roi? » Oui, mais pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Donc, il n'était pas en train de créer une sédition. Et savez-vous quoi? Pilate ne les croyait pas. Pourquoi? Parce que si ça avait été vrai, Pilate le savait bien, que s'il y avait eu de la révolte, bien déjà, je veux dire, ça aurait paru, il y aurait eu, tu sais, c'est comme avec Barabbas, il aurait bien vu que ça ne marche pas, ça n'arrivait pas. S'il avait dit d'arrêter de payer les taxes, il aurait bien vu que les coffres de Rome arrêtaient de se remplir, ça n'arrivait pas non plus. Puis, S'il y avait eu une insurrection en disant qu'il se proclame roi à la place de César, là aussi, je veux dire, il y aurait eu tout ce mouvement politique qui serait arrivé. Mais rien de cela n'était vrai. Mais malgré ça, et la déclaration officielle que Pilate lui-même fait sur l'innocence de Christ, et pas juste à une reprise, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Et je l'ai déjà dit, c'est pas qu'il voyait que Jésus est sans péché, le Fils de Dieu. Il dit, je vois rien de coupable politiquement. Cet homme-là fait rien. Moi, en tant qu'agent de l'Empire romain, je vois rien qui fait, qui est contre les lois romaines, contre l'ordre de l'Empire romain. Mais malgré ça, il hésite quand même. Pourquoi? Il était dans une situation très délicate. Parce qu'il savait très bien, notre cher Pilate, que les Juifs n'allaient pas lâcher le morceau. Et qu'il allait amener la cause, s'il continuait à résister comme ça, ces Juifs allaient amener la cause devant l'empereur, qui était à l'époque César Tibère, qui était très superstitieux, qui était très paranoïaque, et qui aurait été très enclin à croire les Juifs en disant « Hey, il y a un roi qui veut prendre ma place dans la Judée. » Ainsi, Pilate était menacé de perdre son poste politique. Je prends le temps de vous expliquer ça pour mettre la table, si vous voulez. Donc, on comprend à la lumière de ça que pour son propre bien, Pilate ici met de côté le droit et la justice et agit contre sa propre conscience. Il savait que Christ n'avait rien à se reprocher. Il savait qu'il devait agir d'une telle façon, mais il ne le fait pas parce qu'il pense à lui-même, puis contre sa propre conscience. Et même en livrant Jésus à Hérode, hein, parce qu'il apprend qu'il est de la juridiction d'Hérode en Galilée, il espérait que ce dernier peut-être allait le condamner à sa place. Il voulait vraiment s'en laver les mains. Okay? Mais même plus que ça, on apprend dans les versets 22 à 25 que dans son ultime effort de le relâcher, parce qu'il n'arrête pas de dire tout le temps, je vais vous le relâcher, qu'est-ce qu'il fait? Il voulait plaire aux Juifs. en le faisant battre, en disant, mais peut-être que, tu sais, si j'assouvis leur haine, leur soif de vengeance et de sang, peut-être qu'ils vont le laisser relâcher. Vraiment, jusqu'au bout, il a essayé. Puis même sa femme l'avait averti. Attention à ce que tu fais à cet homme, c'est un juste. Il espérait de forcer les Juifs à changer d'idée, mais rien n'y a fait. Évidemment, on sait que Dieu est au contrôle de tout ça. Et donc, Pilate a fini par libérer le coupable, Barabbas, et par condamner l'innocent au grand plaisir de ses détracteurs. Je prends le temps de tout expliquer ça pour vous montrer que c'est un exemple puissant de l'esprit de compromis qui animait Ponce Pilate. Et cet esprit, c'est la toile de fond noire sur laquelle Dieu fait luire. Si Dieu utilise ça pour faire briller la vérité de sa rédemption. Et là-dessus, je vous donne une référence dans Jean 18. Le même événement qu'on lit là, mais Jean amène quelque chose qui est unique à Jean. Lorsque Pilate, comme ça, parle à Jésus, il lui dit « Tu es donc roi? » OK, on a lu ça tantôt. « Tu es donc roi? » Puis voici comment Jean amène la réponse. Jésus lui dit « Tu le dis, je suis roi. » Et Jean d'ajouter au verset 37 de Jean 18 « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité? » Et ce n'est pas parce qu'il la cherchait. Je pense qu'il disait ça sur un ton sarcastique. C'est quoi la vérité? Après avoir dit cela, il est sorti de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Ici, je veux souligner que cet esprit de compromis qui animait Ponce Pilate était un affront, était contre Jésus-Christ qui est la vérité incarnée. Ici, Christ dit dans Jean qu'il est venu dans le monde, il est né puis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, lui qui est la vérité. Puis quiconque écoute la vérité, écoute sa voix. Maintenant, voici, je veux amener ça un peu plus proche de nous autres. J'ai pris le temps d'expliquer ça pour faire l'application suivante. Est-ce qu'on s'entend que c'est évident que non seulement dans le monde, mais pour ce qui nous concerne, le monde chrétien est submergé d'un esprit de compromis? Moi, je trouve ça évident. Un esprit de compromis sans précédent qui se révèle par un ajustement de la vérité de la parole sous la pression sociale, exactement comme Pilate. Plus la pression montait, plus il était pressé de céder contre sa conscience, contre ce qui était droit, à faire ce qui n'était pas droit. C'est ce qui arrivait avec Pilate, et je veux avancer ce matin que je crois, c'est ce qui arrive avec l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça dit que Jésus a dit qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Comme sa tête, le corps de Christ dans ce monde, a pour unique but de rendre témoignage à la vérité pour la gloire de Dieu. Christ est la vérité. On rend témoignage qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Et c'est ça qu'on est ici sur terre comme des témoins de Christ, la vérité, avec la foi et la confiance que ceux qui sont de la vérité vont écouter la voix de Dieu. On n'a pas besoin d'ajuster le message. On n'a pas besoin d'ajuster l'Église. On a besoin d'être fidèle à Dieu, à sa parole. Et Dieu va s'occuper de faire ce que Dieu fait, de sauver, de convaincre, de faire juste ce que Dieu est capable de faire. On n'est pas des pragmatiques. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin. Dieu est tout puissant. Si Dieu est fidèle selon sa parole et qu'on est fidèle à sa parole, Dieu va s'occuper de faire ce que lui seul est capable de faire. Il veut juste qu'on se serve du matériel de sa parole, de la proclamer pour que lui fasse son œuvre dans l'époque dans laquelle il nous a mis. For such a time as this, pour un temps comme cela, comme ça dit dans Esther. Et j'aimerais avancer que non seulement comme la société, mais malheureusement la société déteint toujours sur le monde chrétien, notre époque est marquée par la question de Ponce Pilate, qu'est-ce que la vérité? On entend ça souvent dire, ah ça c'est ta vérité, ça c'est ma vérité. Là, il y a juste une vérité. La vérité, c'est acquiescer ce qui est la réalité. Puis Christ, Dieu, est l'ultime réalité. Puis c'est nous qui s'ajustons à ça. C'est pourquoi, ah ben ça c'est la tienne. Non, non, La réalité, c'est ça, puis ça change pas. T'as beau t'as pas se sentir bien avec ça, t'as beau pas l'aimer, pas la... c'est ça la réalité. Puis la vérité, c'est reconnaître ça. Maintenant, quand je dis que ça l'affecte le monde chrétien, mes amis, je crois que la vraie raison pour laquelle tant d'églises sont neutralisées dans cette époque, où est-ce qu'au contraire, l'Église devrait être debout et proclamer Christ et se tenir pour lui, c'est parce que cette pensée, qu'est-ce que la vérité? Ben, on n'est pas trop sûr. Je pense pas que c'est parce que c'est pour un témoignage, on veut être un bon témoignage en obéissant. Je pense qu'il y a une peur qui est derrière. C'est plus facile de donner une raison que d'être direct. On a passé à peu près une heure et demie à parler avec des gens sur les raisons de ci et de ça. Puis ça a pris une heure et demie pour dire ce que, pour une personne, pour ce que l'autre personne après a dit en une phrase. Je suis d'accord avec ce que vous dites, ça a bien du bon sens. Mais je veux pas souffrir. L'autre, ça faisait une heure et demie qu'elle patinait pour nous dire à peu près la même affaire. Mais puis je pense que c'est ça la réalité. La peur. Et voici, la peur de se confier dans celui qui est la vérité, qui ne ment jamais, donc qui est digne de confiance. Si Dieu est la vérité, si il ne ment jamais, est-ce qu'il est digne de confiance? Je vous amène juste un verset, une couple de versets là-dessus. Psaume 91, vous connaissez Psaume 91? Excellent psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dites-moi, où est la confiance du psalmiste par rapport à ce qu'il vivait en l'Éternel? C'est lui sa sécurité, c'est lui qui est grand à ses yeux. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ a vu un grand virus, un grand gouvernement, des grandes menaces, mais un petit Dieu. Et a écouté la voix de César au lieu de celle de Jésus-Christ. Désolé un matin, mais je pense que c'est un esprit de compromis qui a animé ces choses et que Dieu ait pitié de son Église parce que je crois que c'est une réalité dure, mais que Dieu met devant nos yeux. Où est notre crainte? Et notre appel, mes amis, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre quand il a posé trois fois la question « M'aimes-tu, m'aimes-tu? » Il dit « Paix mes brebis. » Pas « Divertis les boucs, fais tout pour essayer de garder. » Non, « Paix mes brebis. » Le peuple de Dieu, plus que jamais, a besoin d'être sous la sainte houlette de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Plus que jamais, on a besoin les uns des autres de s'entretenir. Peu importe ce que César peut en dire. Et regardez l'histoire, mes amis. L'histoire a toujours été parsemée, l'histoire chrétienne, de toutes sortes de Césars, de rois et tout ça, qui s'opposaient au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a continué, le vrai peuple de Dieu a continué, envers et contre tous, à être fidèle à Dieu et à sa parole. Parce que c'est le Dieu qui dit qu'il est notre berger, qu'on ne manquera de rien, qui nous fait reposer dans des verts pâturages, qui nous dirige près des eaux paisibles. Est-ce que c'est ça ta sécurité? Est-ce que c'est là qu'est ton assurance? L'esprit de compromis. Deuxième esprit qu'on voit dans notre texte, et on le voit par le leadership d'Israël, l'esprit de rébellion. Je l'ai souligné en le lisant, mais je veux qu'on relise des versets 21 à, jusqu'à la fin, verset 25. Et il cria, ça c'est la foule, mais sont instigés par le leadership d'Israël, « Crucifie, crucifie-le! » Pilate leur dit, pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait. Et regardez bien ce que c'est de verset 25. « Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et livra Jésus à leur volonté. » à leur volonté. Voilà l'essence de l'esprit de la rébellion. C'est insister sur sa volonté et refuser celle de Dieu. Pas compliqué, c'est la titre. Définition biblique, simple. Insister sur sa volonté et refuser obstinément celle de Dieu. Et l'ironie de la situation ici, c'est qu'ils agissaient comme ça en rejetant l'esprit de foi et de soumission face à Christ, qui venait pour les sauver de leur esprit de rébellion. On sait, Israël, on s'entend, on connaît leur histoire et c'est l'histoire du cœur humain. Je veux dire, c'est pas très reluisant. Rébellion, après rébellion, puis tout ça, se détourner de l'Éternel. L'Éternel, dans sa grande patience, qui les ramène toujours à lui, qui a envoyé des prophètes, puis tout ça. Là, le Fils était là, devant eux, pour les délivrer de cet esprit de rébellion, et ils le rejettent. Ils ont plutôt, voyez l'ironie ici de la situation, ils ont embrassé l'esprit de rébellion de Barabbas, qui faisait des séditions et des meurtres, et cet esprit-là était maintenant en eux. Ce même esprit les animait, et qui a ultimement mené à leur destruction spirituelle et physique. 70 après Jésus-Christ, Jérusalem détruite, mais ils ont rejeté leur Messie. Et vous pouvez compter là-dessus, mes amis. L'esprit de rébellion est contagieux. C'est contagieux, c'est destructeur. Et s'il n'est pas vaincu par l'esprit du Dieu Tout-Puissant, ça va inévitablement conduire à la destruction. Plus de destruction, toujours plus. Hey, fermez vos téléphones quand vous venez à l'église, sérieux, là. OK. Notre frère Jim John n'est pas là aujourd'hui, mais vous avez, est-ce que vous, si vous n'étiez pas là, avez-vous écouté son témoignage? Wow, c'est vraiment, prenez le temps d'écouter ça. La grâce de Dieu. On voit la puissance de l'Évangile dans la vie de quelqu'un. Puis j'ai aimé comment il a appelé ça, appeler des ténèbres à la lumière, puis c'est tellement ça. Dans le témoignage de notre frère, il y a vraiment... C'est un témoignage puissant qui nous montre comment Dieu, dans sa grâce merveilleuse, a brisé cet esprit de rébellion qu'il avait, vous rappelez-vous, dans le témoignage, il se rebellait contre Dieu à cause de la mort de son père. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce que c'était injuste? Est-ce que... Oui, je veux dire, il ne l'a pas eu facile. Puis cette rébellion, cet esprit de rébellion se répandait à toutes les facettes de sa vie, à toutes ses relations. Puis, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait juste augmenter la destruction dans sa vie. Mais heureusement, il y a eu une fin heureuse, parce que Dieu a brisé cette volonté. Il a brisé cet esprit de rébellion qui l'animait. Et Dieu, dans sa grâce, a remplacé cet esprit par le sien. Et mes amis, c'est beau à voir. J'aime ça entendre parler. Mon frère, quand il parle, tu vois que... Il désire la volonté de Dieu, il se réjouit dans la volonté de Dieu, il recherche la volonté de Dieu. Et là-dessus, je crois qu'à ce niveau, vous savez que notre frère, il nous l'a dit, il y avait des facteurs aggravants dans sa situation, il y a toutes les circonstances qu'il vivait, puis là, il voyait des personnes qui avaient des pères, puis lui en avait pas. Mais remarquez le rôle que l'alcool et la drogue ont joué aussi. Et là-dessus, je crois qu'il y a une puissance asservissante et aggravante à l'esprit de rébellion avec cet alcool et ces drogues. Pourquoi? C'est quelque chose que j'ai observé souvent. Dans le ministère de la prison, quelque chose que je vois avec régularité, c'est comment, je dirais, j'ai pas fait de statistiques, mais au moins 90% des gens qui sont là, c'est relié à la consommation. Pourquoi? Parce que l'alcool et la drogue, c'est un échappatoire à la réalité. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est un échappatoire à la réalité de la vie que Dieu nous a donnée dans sa volonté. On n'aime pas ça. We want out of it. On n'aime pas ça. On veut en sortir. C'est un échappatoire. Les Anglais utilisent l'expression escapism. Un échappatoire, vouloir échapper à la réalité. À la dure réalité. On s'entend-tu? Moi, je ne connais pas bien des histoires aussi difficiles que celles de notre frère. C'était une dure réalité. Moi, j'aurais voulu aussi y échapper. Mais savez-vous quoi? C'est un rendez-vous de Dieu. Il a rencontré le Dieu vivant, le Dieu qui libère, le Rédempteur, dans cette dure réalité. C'était la toile de fond que Dieu plaçait pour magnifier sa rédemption extraordinaire. Dieu voulait révéler la profondeur de sa rédemption dans cette noirceur de la dépravité humaine et de toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui arrive quand on a cet esprit de rébellion? On insiste sur notre volonté, puis on résiste à la sienne. Puis on ne devrait jamais s'habituer à ça. Puis en passant, c'est pour cette raison que je prêche, avec l'alcool et les drogues, l'abstinence totale, parce que premièrement, les petits compromis mènent à des grands désastres. Il n'y a jamais personne qui se lève le matin et qui dit « je vais ruiner ma vie avec ces choses ». Mais aussi, on ne devrait jamais s'habituer à accepter de résister, insister sur notre volonté et résister à celle de Dieu. Pensez à ça par vous-même. Maintenant, je vais amener ce point à un point focal ce matin. Esprit de compromis, esprit de rébellion. Ces esprits sont sournois. On peut voir ça gros avec les exemples que j'ai donnés, là. Mais ils sont sournois, ils sont pas toujours faciles à discerner, surtout dans leur début, dans leur état embryonnaire. Parce que là, ils sont dans leur forme acceptable. Vous savez qu'on a une acceptabilité du péché, on a une acceptabilité de compromis, de rébellion. Tu sais, comme un poisson accepte d'être dans l'eau parce qu'il a toujours été dans l'eau, puis il est mouillé, puis c'est comme ça. Ou une grenouille qu'on la met dans un chaudron, puis qu'on allume le rond à pas trop chaud, tu t'en rends pas trop compte, ça va comme ça, l'acceptabilité. Mais voici là où je vais amener les choses ce matin. Le Seigneur a dirigé mon attention sur un événement dans le livre des rois. Connaissez-vous le roi Josias? Est-ce qu'il était un bon ou un mauvais roi, ce Josias? Le dernier des bons de Juda, parce qu'après, ça l'a empiré, puis ça a été la déportation babylonienne. Donc, Josias il est devenu roi à 8 ans, mais peu de temps après qu'il soit devenu roi, il a commencé à faire le ménage. Et ça n'allait pas bien, parce que ses prédécesseurs, dont Amon, qui était un des pires, avaient introduit des idoles dans le temple de Dieu, prostitution sacrée, puis toutes ces choses-là, il a fait le ménage là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on lit le récit de ce que je suis en train de vous résumer maintenant, en faisant le ménage du temple, ils ont trouvé un exemplaire du livre de la loi. Et là, ils l'ont lu au roi. Et donc, le roi était déjà conscient que ça n'allait pas bien, qu'il y avait de l'idolâtrie et tout ça. Mais quand la loi a été lue, là, il est passé à un autre niveau. Il a déchiré ses vêtements et il a dit « On a péché gravement contre l'Éternel. » Puis écoutez qu'est-ce qu'il a dit. Une bonne chose qu'il a dit dans deux rois, au chapitre 22, verset 13. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit. » Ce que je veux souligner ici, c'est que notre cher Josias était conscient du péché, était conscient que l'idolâtrie s'est infiltré, que toutes ces choses-là qui étaient mauvaises, puis avait déjà commencé à faire le ménage. Mais là où Dieu est intervenu d'une façon unique pour révéler l'esprit qui était derrière ça, c'est avec la parole de Dieu. Il y avait l'extérieur, il a fait le ménage extérieur, mais Dieu a travaillé direct dans le cœur avec sa parole. Et ça l'a produit quoi? Aller consulter l'Éternel. La réponse de Josias à la parole, ça a été de chercher Dieu. Savez-vous quoi? Chercher Dieu, consulter l'Éternel, c'est la solution à cet esprit de compromis. Parce que si on cherche Dieu, puis qu'on veut faire sa volonté, on ne va pas se compromettre. On ne va pas essayer de tourner les coins ronds. On va faire la volonté de Dieu parce que c'est ce qu'on cherche. Puis se soumettre à cette volonté, s'en remettre à cette volonté, c'est la solution à l'esprit de rébellion. D'arrêter d'insister sur sa volonté, puis de résister à celle de Dieu. Et je crois que ces esprits dont on a parlé aujourd'hui, cet esprit de compromis, cet esprit de rébellion, Je l'ai dit, ils sont subtils, ils doivent être révélés par Dieu. On peut en voir l'extérieur, on peut faire un ménage extérieur, mais pour que vraiment il y ait quelque chose de durable, il faut que Dieu saisisse nos cœurs. Conviction du Saint-Esprit. Vous savez, je me rends compte, ça fait pas si longtemps que je pasteur, ça fait quoi? Ben, pas si longtemps. Depuis 2006-2007. En tout cas, tu sais, je suis pas un vieux pasteur, là. Ben, en tout cas,
vous en jugerez vous-même. Mais tu sais, je veux dire, dans les années d'observation, je me suis rendu compte de quelque chose de très évident, que maintenant, je trouve que c'est très évident. Tu sais, c'est possible d'exhorter, c'est possible d'amener les versets de la parole, c'est... mais s'il n'y a pas de conviction du Saint-Esprit dans le cœur, on s'en va nulle part. T'as beau parler jusqu'à temps que tu sois bleu, rouge, vert, t'as beau être passé tout ton temps à essayer d'aider, puis comme Kevin dirait, been there, done that, got the t-shirt for it. Je veux dire, tu sais, j'ai essayé, là, tu veux aider quelqu'un, puis tout ça, mais si, t'as beau l'aider, puis l'aimer, puis si la personne n'est pas saisie du Saint-Esprit, ça mène à rien. C'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est tellement important, parce que c'est ça que Dieu va faire en réponse à la prière, saisir les cœurs pour révéler cet esprit qui nous anime. Donc voici à quel point je vais amener les choses pour conclure ce matin. Vous savez, on prie, puis c'est un très beau verset, et souvent je l'amène en conclusion de message. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Excellent verset, j'aime beaucoup. Mais j'aimerais être un peu plus précis ce matin. Oui, sonde-moi, ô Dieu, puis ça, mais OK. Seigneur, révèle-moi où, dans ma vie, dans mon cœur, saisis mon cœur, là où j'ai cet esprit de compromis et de rébellion. En passant, pensez pas à votre voisin. Est-ce que vous êtes ici, puis vous avez une nature humaine, pécheresse, adamique? Si vous avez ça, vous avez cet esprit de compromis et de rébellion. La question, c'est savoir où. OK? Ah ouais, mais lui, t'as-tu vu comment il est pire? Ouais, mais toi, t'es juste plus subtil, c'est juste plus caché. T'as la même affaire, ça paraît juste moins. Ça veut pas dire que c'est moins dommageable, ça veut pas dire que ça peut pas aller aussi loin. On n'avait jamais regardé quelqu'un de haut en disant, ah, t'as-tu vu, il y a de la misère. Il est donc même rebelle. Puis c'est vrai qu'il y en a que c'est plus évident. Mais ça fait partie de notre nature profonde. Et donc, on demande, voici là, qu'à la lumière de ce qu'on a vu avec Josias dans Deux Rois, là, pour terminer, qu'on dit, Seigneur, saisis mon cœur sur là où moi j'ai cet esprit qui m'anime. Là où je résiste à ta volonté, puis j'insiste sur la mienne, puis je veux. J'ai donné l'exemple. Moi, j'avais ça, je me suis rendu compte, Seigneur a saisi mon cœur là-dessus. Je m'en vais avec mon fils, ben, on l'a reconduit, puis là, j'étais tout aigri, puis pas content. Puis j'aurais pu passer à côté de ce que le Seigneur voulait faire. J'ai dit, je vais me reposer dans la souveraineté de Dieu. Puis j'avais cet esprit qui m'animait. J'avais-tu raison? Oui. Parce que c'est vrai que c'est plein d'affaires pas justes, puis ils en mettent ben trop, puis... Mais je veux pas être vaincu par ça, je veux me réjouir dans l'Éternel, mon Dieu. Amen. Quel beau verset, hein, Fran, tu m'avais partagé ça dans Habacuc. Habacuc, il dit, hey, quand même que les récoltes ne donnent pas comme ils devraient, quand même que les animaux se reproduisent pas comme... Tu sais, c'est une société agricole, il dit, quand même, je veux me réjouir en l'Éternel, mon Dieu. Ça va pas comme on veut. Certainement pas. Mais c'est pas grave. On peut décider dans notre cœur, résoudre dans notre cœur comme Daniel, de se réjouir en l'Éternel, notre Dieu. Mais pour ça, il faut que Dieu deal avec la réalité de nos cœurs ce matin. Qu'il saisisse nos cœurs. Donc mon appel, c'est invoquons l'Éternel qui nous révèle à nos cœurs, à nous, là où il y a un esprit de rébellion, là où il y a un esprit de compromis. Puis Dieu fait pas ça pour dire, ah, t'as-tu vu, tu fais donc Dieu. Puis nous pointer du doigt et dire comment on est misérable. Dieu nous fait ça dans son amour pour opérer sa rédemption, pour nous délivrer de cet esprit de compromis, cet esprit de rébellion. Seigneur, merci qu'on a ta parole vivante qui sonde les pensées, les intentions du cœur. Rien n'est caché devant toi. Tout est à nu, tout est découvert. Et donc, Seigneur, c'est humblement qu'on vient à toi ce matin avec cette simple requête, sonde-nous et révèle à nos cœurs, là où, dans nos vies, dans nos cœurs, toi qui sondes les cœurs, là où cet esprit de compromis, cet esprit de rébellion
fait ses ravages. Et c'est peut-être pas évident. Ça ne saute peut-être pas aux yeux. Mais c'est encore plus dangereux quand c'est subtil. Parce qu'on l'excuse, on le met de côté, on n'y porte pas attention. Et ça peut aller encore plus loin. Donc, Seigneur, saisis nos cœurs. Révèle à nos cœurs leur état réel. Merci, Seigneur, que tu es bon, bienveillant. Tu veux briser ce qui est notre volonté. Comme on le voit avec le témoignage de notre frère, tu veux briser pour restaurer. Tu ne brises pas pour briser. Tu brises pour faire mieux. Tu veux briser ce qui n'est pas, ce qui est vil, pour faire ce qui est honorable. Merci pour ça, Seigneur. Que ce temps de réponse dans la prière soit la réponse de la foi de ton peuple ce matin. Et Seigneur, je continue de te prier. S'il y en a qui ne sont pas sauvés ici, toi qui saisis les cœurs, convainc de péché, de justice et de jugement, que cette personne, ces personnes tombent devant toi, humblement à reconnaître leur état devant toi, coupable, et qu'ils voient que tu as envoyé ton Fils pour qu'il soit racheté, que c'est le seul moyen. Seigneur, on invoque ta miséricorde, ta grâce ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est votre tour.